France Musique.
Mon cœur est un violon, à la recherche de Ginette Neveu.
Marina Schisch, France Musique.
Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur France Musique pour le 5e épisode de la série consacrée à la violoniste Ginette Neveu, née il y a 100 ans. Le volet précédent était une enquête sur le Paris au début du 20e siècle. Enquête sur les maîtres de Ginette Neveu et sur les écoles nationales de violon. Nous avions refermé l'émission sur le professeur juif hongrois Karl Flesch, contraint de quitter l'Allemagne dès 1935. 1935, c'est justement l'année du fameux concours Wieniawski à Varsovie, si important pour le lancement de la carrière internationale de Ginette Neveu. À partir de cette victoire, Ginette va sillonner le monde. 1935, c'est aussi une époque sombre en Europe, où le contexte géopolitique se tend de manière inéluctable. Beaucoup de musiciens décident ou sont obligés de partir. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs des violonistes primés au concours Wieniawski. Aujourd'hui, nous allons explorer ces migrations, celles de Ginette Neveu et celles de quelques-uns de ses collègues lauréats du concours, comme autant de destins croisés dans une époque complexe où la petite et la grande histoire se rencontrent. Une succession de synchronicités étonnantes après ce moment fort à Varsovie, un peu comme en physique quantique. Des coïncidences et des chemins parfois inattendus pour une constellation impressionnante de violonistes. Ce sera un épisode qui va nous faire sacrément voyager. Alors, accrochez vos ceintures, en route!
Thank you.
Nous écoutions la burlesque, tirée des quatre pièces du compositeur tchèque Josef Suk. Ginette Neveu au violon, avec son frère Jean au piano. Après son triomphe au concours Wieniawski, toutes les portes sont ouvertes pour Ginette. Elle reçoit des engagements du monde entier. Pour pouvoir localiser les lieux d'où viennent les propositions, Ginette achète aussitôt une carte du monde. À cette époque, les voyages sont longs et mémorables. Pour se rendre à New York, elle prend le bateau, le Normandie, qui vient d'être inauguré. La traversée dure 5 jours. Heureusement, elle est accompagnée de sa grande sœur. Durant ses déplacements en train, Ginette travaille son violon dans son compartiment. Et comme elle reçoit des bouquets de roses à chaque escale, son compartiment devient entièrement décoré de fleurs. Les voyages sont parfois épuisants. Et quand elle part, c'est pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par exemple, à l'été 1936, elle fait une tournée en Russie. À la frontière, son pianiste accompagnateur et un représentant du gouvernement l'attendent. Ils l'escorteront dans tous ses déplacements. Et Ginette doit surmonter la fatigue. Elle triomphe dans un récital à Moscou devant une salle comble de 2500 personnes alors qu'elle sort de 25 heures de voyage. Et puis, de Moscou à Bakou, il faut 3 jours de train. Il fait 30 à 35 degrés dans le compartiment et Ginette et sa maman n'ont emporté que des vêtements d'hiver. C'est l'aventure. Ginette découvre avec grande curiosité ces contrées lointaines.
Thank you.
Sur France Musique, la première des quatre pièces de Joseph Souk, Quasi Ballata, toujours Ginette Neveu au violon avec son frère Jean au piano. De 1937 jusqu'au début de la guerre, Ginette ne quitte plus la vieille Europe. Entre ses concerts, elle continue d'aller prendre des cours avec le professeur Karl Flesch, installé alors à Knox, en Belgique. Elle joue régulièrement avec le Philharmonique de Berlin, orchestre avec lequel elle a une relation particulièrement heureuse. En avril 1938 et en mars 1939, elle réalise deux sessions d'enregistrement à Berlin, justement, avant que le déclenchement de la guerre ne vienne mettre sa carrière en pause. Pour d'autres lauréats du concours Wieniawski, l'après-concours est bien différent. Regardons de plus près les trajectoires de deux candidats polonais. Un certain Mieczysław Szwalbe et un certain Bronisław Gimpel. À Varsovie, Gimpel obtient un 9e prix. Au moment du concours, il a déjà une sacrée réputation. En effet, 10 ans plus tôt, à l'âge de 14 ans, il tourne comme enfant prodige dans toute l'Europe et se retrouve à jouer à Vienne devant le pape et l'empereur d'Italie, Victor Emmanuel III. À la fin des années 20, il étudie à Berlin avec le professeur Karl Flesch. Flesch lui conseille alors de gagner en expérience dans le jeu collectif, ce qu'il fait en jouant comme premier violon dans quelques orchestres. Ce sera une expérience importante qui lui sera bien utile. En effet, Gimpel est d'origine juive. En 1937, donc 2 ans après le concours Wieniawski, il comprend qu'il doit partir. Il va alors en Amérique. Aussitôt repéré par le chef d'orchestre Otto Klemperer, il obtient le poste de concertmaster, c'est-à-dire premier violon solo du Los Angeles Philharmonic. Dans les années 30, plusieurs musiciens fuyant le régime nazi sont déjà arrivés à Los Angeles. Les compositeurs, dont la musique est qualifiée de dégénérée, comme Arnold Schoenberg ou par exemple Paul Hindemith, qui se lamentent qu'à part le cinéma, cette ville ne s'intéresse à rien. Gimpel développe des activités variées et il a l'occasion de se produire aussi en soliste avec son orchestre. C'est un violoniste fantastique. Thank you. le violoniste polonais Bronisław Gimpel avec Arthur Balsam au piano dans La danse russe d'Igor Stravinsky, un arrangement brillant réalisé par le violoniste Samuel Douchkine. En 1938, 3 ans après le concours Wieniawski, voilà donc Gimpel en poste de violon solo à Los Angeles. Qu'en est-il de cet autre violoniste polonais, Mieczysław Szwalbe ? Âgé de 16 ans lors du concours à Varsovie, Szwalbe obtient un diplôme d'honneur. Il a été formé en Pologne auprès d'un ancien élève du célèbre professeur hongrois Leopold Auer, qui forma en Russie notamment Jascha Heifetz ou Nathan Milstein. Szwalbe veut alors étudier auprès du grand Karl Flech, mais Flech part justement d'Allemagne. Grâce à l'intervention d'un oncle diplomate, il a la possibilité d'étudier à Paris. Il ira chez un certain Georges Enesco, devenu très célèbre grâce à l'immense renommée de son élève prodige, Yehudi Menuhin. À Paris, lors de cours publics, Jules Bouchery, l'ancien professeur de Ginette Neveu au Conservatoire de Paris, repère Szwalbe et lui propose de rentrer dans sa classe au Conservatoire. Mieczysław devient alors Michel. C'est déjà un sacré violoniste qui aime la concurrence. Dès la première audition de classe, il fait forte impression.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions le final du deuxième concerto de Wieniawski, joué avec un immense panache par Michel Schwalbe. L'orchestre de la Suisse romande est dirigé par Stanislav Skrawaciewski. C'est un enregistrement de concert. D'ailleurs, à un moment, la flûte rentre trop tôt. Schwalbe continue avec un sang-froid impressionnant, comme si de rien n'était. En 1938, Schwalbe surclasse ses camarades au Conservatoire de Paris. Lors du concours final, il obtient deux prix spéciaux, le prix Sarasate et le prix Jules Garcin. Mais voilà, la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée. Les choses se compliquent alors pour tous nos violonistes. Pour Ginette Neveu, la drôle de guerre marque une pause dans ses déplacements internationaux et dans ses projets d'enregistrement. Elle refuse des engagements outre-Rhin et reste à Paris. Elle travaille intensément avec son frère Jean. Ils vont d'ailleurs ensemble jouer le répertoire de sonates au professeur de Jean, le pianiste Yves Nat. Les conditions de vie sont difficiles, les conditions de déplacement aussi. Ginette joue quelques concerts en zone libre. Pour y aller, ce sont de véritables expéditions à travers de petites villes non éclairées et dans des trains non chauffés. Par exemple, Ginette voyage debout dans un couloir vers Lyon et doit jouer le soir même la sonate de Franck avec les doigts encore engourdis par le froid. C'est dans ces conditions difficiles qu'elle fait ses débuts sous la direction de Paul Paré le 4 mai 1941 dans le concerto de Beethoven. Concerto qu'elle n'a encore jamais joué en France. Un extrait du deuxième mouvement du concerto de Beethoven, donné en concert par Ginette Neveu au violon, avec l'orchestre symphonique de Baden-Baden, à la baguette, le chef Hans Rosbaud. À peine la guerre terminée, la carrière de Ginette Neveu reprend de plus belle. Ginette se produit partout, notamment avec orchestre, dans les concertos de Beethoven, Brahms, Sibelius, et dans les pièces françaises comme le poème de Chausson et les Tziganes de Ravel. C'est une ambassadrice de la France.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Ginette Neveu est particulièrement appréciée au Royaume-Uni. Elle passe d'ailleurs la plus grande partie de l'année 1946 à Londres, où elle se remet à enregistrer le concerto de Brahms et le concerto de Sibelius notamment. Puis elle retourne jouer à New York. Cette fois-ci, les déplacements transatlantiques se font en avion. Et il s'en passe des choses dans les airs. Ainsi, lors d'un vol retour des États-Unis, un commandant de bord la met au défi de prouver ses talents à l'harmonica. Car oui, Ginette joue de l'harmonica pour se divertir dans les rares moments où elle ne travaille pas son violon. Et ce passe-temps est devenu chose connue. Alors Ginette sort son harmonica et s'exécute. Elle joue à 6000 mètres d'altitude une rhapsodie de Liszt. Les passagers sont enthousiastes. Une émotion presque plus vive pour elle que lorsqu'elle exécute le concerto de Brahms au violon. Bref, les tournées s'enchaînent. Amérique du Sud, puis Australie. D'Australie, elle doit aller directement aux États-Unis. Mais 7 mois d'absence, loin des siens, c'est trop. Elle décide alors de repasser par Paris entre 2 avions et repart presque aussitôt. Aux États-Unis, en 3 mois, elle donnera 60 concerts dans 21 villes différentes. C'est notamment le chef d'orchestre, Charles Munch, qui l'a fait venir régulièrement avec le New York Philharmonic.
Tout le monde sait que Ginette Neveu, ces derniers mois, a fait de triomphales tournées en Amérique et ailleurs.
Tout le monde sait aussi qu'elle va jouer avec Charles Munch pour chef d'orchestre. Nous l'avons annoncé déjà, je crois.
Mais voulez-vous préciser vous-même, s'il vous plaît, Ginette Neveu ?
Mais oui, avec plaisir. En effet, je jouerai avec la Société des concerts du Conservatoire le 3 juin sous la direction de M. Charles Munch.
La rencontre d'une soliste comme vous et d'un chef comme Munch, c'est bien ce que l'on appelle aux États-Unis une sensation. Vous avez paru ensemble là-bas, n'est-il pas vrai ?
Mais naturellement, j'ai joué plusieurs fois avec la Philharmonique de New York et à chaque fois, ces concerts ont été dirigés par le maître Charles Munch.
Ginette triomphe donc aux États-Unis et le public l'adore.
Je crois pouvoir résumer ainsi mes impressions sur l'Amérique après mes 2 grandes tournées qui m'ont conduit dans différentes villes telles que Philadelphia, New York, Boston, Cleveland, Pittsburgh, Minneapolis et beaucoup d'autres. Je pense que le public américain attache de plus en plus d'importance à la personnalité de l'artiste et à la recréation qu'il apporte dans chacune des œuvres qu'il interprète. Cependant, et c'est là une expérience personnelle, je trouve d'une manière générale que tous les publics réagissent toujours intensément devant ce qui est beau.
Pendant ce temps-là, en Amérique, le violoniste polonais Bronisław Gimpel a fondé le Hollywood Youth Orchestra, un orchestre de jeunes qui sera actif de 1940 à 1942. Dès 1942, Gimpel s'engage dans l'armée américaine, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Une fois la guerre terminée, il reprend des activités de soliste en Europe et retourne régulièrement aux États-Unis. À Los Angeles, les mondes de la musique classique, du cinéma et du jazz se croisent. Ainsi, en novembre 1949, on le retrouve dans une session d'enregistrement avec l'immense saxophoniste Charlie Parker. Écoutez donc ses conduits de violon à tomber par terre dans l'introduction et à la fin de ce standard. Un son d'une séduction absolue qui forme un écrin au solo sublime de Charlie Bird Parker. Thank you. Sur France Musique, c'est le violon de Bronislav Gimpel que l'on entend dans cette magnifique version du standard April in Paris, extraite de l'album Charlie Parker with Strings. Quel chemin pour le violoniste polonais Gimpel, 9e prix du concours Wieniawski de 1935. Après la guerre entre Europe et Amérique, il fonde notamment le Quintet avec piano de Varsovie avec Vladimir Spielmann. Spielmann, dont le film Le Pianiste raconte le destin. Mais que devient Michel Schwalbe pendant ce temps-là? Eh bien, au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ayant acquis la nationalité française, Schwalbe s'engage comme volontaire dans l'armée. À cause de son origine juive polonaise, il doit se réfugier en zone libre à Lyon en 1940. Puis, fin 1942, caché dans un camion de déménagement, il parvient à s'enfuir en Suisse. En 1944, il est engagé comme violon solo à l'orchestre de la Suisse romande, puis en 1946, il devient professeur au Conservatoire de Genève. Mais en 1957, Herbert von Karajan le veut à tout prix pour le poste de violon solo à la Philharmonie de Berlin. Schwalbe hésite. Aller jouer à Berlin sous Karajan, alors que sa mère et sa sœur sont mortes en déportation dans le camp de Treblinka. C'est un choix impossible. Il passe l'audition à Berlin sans grande conviction. Mais là, Karajan est rusé. Il invite Schwalbe à venir écouter la phalange berlinoise le soir même de son audition victorieuse. Schwalbe est alors subjugué par le son des Berliners. Il ne peut plus résister. Il deviendra premier Concertmeister de l'Orchestre philharmonique de Berlin, un poste qu'il va conserver pendant près de 30 ans jusqu'à sa retraite en 1986. Pendant toutes ces années, il sera le véritable bras droit de Karajan. De son association mythique avec le chef allemand, il reste des enregistrements d'anthologie, dont « Une vie de héros » de Richard Strauss, avec un immense solo de violon. Sa position au sein du Philharmonique de Berlin est incontestée, au point que c'est même lui qui, contre l'avis de Karajan, impose que le troisième des quatre derniers leaders de Richard Strauss soit rejoué afin de parfaire son solo lorsqu'il accompagne la divine voix de Gundula Janowitz. Et cela en valait bien la peine. La merveilleuse Gundula Janowitz avec Karajan et l'Orchestre philharmonique de Berlin dans le Lied « Beim Schlafen gehen » de Richard Strauss, où se retrouve l'un des plus beaux solos de violon, ici joué par Michel Schwalbe. Lorsque Schwalbe part de Genève pour rejoindre Berlin en 1957, donc, eh bien, son successeur au poste de violon solo à l'Orchestre de la Suisse romande est un Hongrois. Il s'appelle Loran Fenivesh. Et figurez-vous qu'il a obtenu un diplôme d'honneur, je vous le donne en mille, au concours Wieniawski de 1935. Fenivesh a lui aussi une trajectoire passionnante. Né en 1918, il fut élève de Jenő Hubay et de Zoltán Kodály à Budapest. Suite au concours de Varsovie, Bronislav Huberman, le grand violoniste polonais, lui propose un poste dans l'Orchestre philharmonique de Palestine, le futur Orchestre philharmonique d'Israël. Fenivesh réalise alors que la guerre en Europe est inévitable. Laissant de côté un début de carrière de soliste prometteur, il rejoint les rangs de cet orchestre fondé par Huberman qui réunit des musiciens ayant fui le nazisme. Quelques années plus tard, il en devient le concertmaster. Et dans les années 40, Fenivesh cofonde l'école de musique de Tel Aviv, ce qui aura un impact déterminant pour la vie musicale en Israël.
Thank you.
Nous écoutions un extrait du premier mouvement de la sonate à Kreutzer de Beethoven avec Laurent Fenevesch au violon et la grande Nina Salzman au piano, elle aussi une figure importante de la scène musicale israélienne. En 1957, le grand chef d'orchestre suisse Ernest Ansermé fait donc venir Fenevesch à Genève pour succéder à Schwalbe. Fenevesch accepte de venir à la condition qu'il puisse aussi enseigner. 10 ans plus tard, il part au Canada, il sera professeur à Toronto, où il aura encore un impact majeur sur la formation des jeunes générations. Fenevesch, un homme charmant au visage très expressif et doué d'un art inimitable de la transmission. C'est une référence sur tous les styles, et en particulier sur le langage du compositeur hongrois Béla Bartók. France Musique, le violoniste et pédagogue hongrois Laurent Fenevesch dans le troisième mouvement des Contrastes de Bartók avec Livia Rêve au piano et Robert Gugoltz à la clarinette. Fenevesch décédera en 2004. Il aura été une inspiration pour des générations de musiciens en Israël, en Suisse ou au Canada. J'aimerais refermer cette émission avec un dernier violoniste passé par cet incroyable concours Wieniawski de 1935 que remporta Ginette Neveu. Quelqu'un qui a aussi, à travers ses migrations, formé et inspiré toute une génération de musiciens. Il s'agit de Ljerko Spieler. Né en Yougoslavie en 1908, Spieler étudie d'abord avec Vaclav Hummel à Zagreb. Il obtient une bourse pour Paris et va étudier à l'école normale auprès du violoniste Jacques Thibault et du violoncelliste Diran Alexanian, un ami de Pablo Casals. Très vite, Spiller enseigne lui-même à l'école normale et joue dans l'orchestre de chambre dirigé par le pianiste Alfred Cortot. Au départ du violon solo, qui n'est autre que Zino Francescatti, dont la carrière de soliste décolle aux États-Unis, Cortot demande à Spiller de prendre sa place. Bref, Spiller baigne dans l'école franco-belge. Juste après le concours à Varsovie en 1935, où il obtient le 5e prix, il part donner un concert à Buenos Aires, sur l'invitation d'un élève argentin. Après de longues semaines de bateau et une fois sur place, il réalise que la situation en Europe est périlleuse. Il décide donc de rester. Il devient alors un acteur fondamental de la vie musicale argentine, où il est très vite rejoint par une vague d'émigrés, comme le chef d'orchestre Erich Kleiber, le père de Carlos, ou le metteur en scène Joseph Gillen. Gillen, dont le fils Michel sera le fameux chef d'orchestre, et la fille, la future Madame Spiller. Lierko Spiller fonde un orchestre de chambre à son nom, la Camerata Spiller, et crée une méthode de jeu collectif pour les enfants. C'est un professeur infatigable. Très intéressé par la musique moderne, il crée tous les grands concertos du XXe siècle, dont il donne les premières auditions en Amérique du Sud. Par exemple, le concerto de Berg, de Martineau, et des œuvres de Frank Martin, ou encore de Benjamin Britten. Court extrait de la valse tirée de la suite opus 6 de Benjamin Britten par Lierko Spiller au violon et Elsa Berner au piano. Spiller décédera en 2008 à l'âge de 100 ans. Il aura formé des générations de violonistes en Argentine. Par exemple, Alberto Lisi, qui poursuivra la tradition de son maître en fondant la Camerata Lisi à Gstaad. Et la merveilleuse Anna Tchoumachenko, qui dirigera la Camerata Berne et qui enseignera à Zurich puis à Munich, où j'ai eu la chance de travailler avec elle. Oui, le monde du violon est incroyablement petit, et le nombre de connexions au-delà des frontières nationales rend la chose vertigineuse. Pour montrer ces filiations, c'est une histoire transnationale du violon qu'il faudrait écrire. Mais en attendant, retrouvons-nous dimanche prochain pour un épisode spécial. Ce sera le 11 août, jour de la naissance de Ginette Neveu. Nous allons célébrer son 100e anniversaire. Merci à l'équipe de l'émission, Philippe Petit, Marjolaine Portier-Kaltenbach et Frédéric Potry. Cet épisode est disponible à la réécoute ou en podcast sur francemusique.fr. Je vous dis à dimanche prochain à 17h.
Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.